Allez, on passe tout de suite au marché. Bon, la semaine n'était pas terrible. Alors regardez, on a une belle carte hein, maintenant. Alors pour ceux qui sont à la radio, tant pis pour vous. À la télé, maintenant, on nous a fait une belle carte. On voit que ça a baissé un peu partout. Tout est rouge hein, sur la semaine. Et puis le début de l'année, ce qui est terrible, hein, le début de l'année, bon, on va pas encore se flageller, mais quand même, S&P 10%, Nasdaq 12%, le MSCI World 10%, l'Eurostock 8% et nous on est à zéro quoi sur le CAC 40. Franchement ça fait mal au cœur quoi, ça me perturbe. Alors je voulais vous parler d'un sujet évidemment je vais vous demander ce que vous pensez surtout aux gérants de enfin même aux directeurs généraux de boîtes de gestion, je sais plus si on peut dire gérant maintenant. Je voulais vous parler de ce que j'avais remarqué, c'est cette divergence assez rare actuellement sur les marchés avec des taux qui montent, des indices boursiers certes qui ont baissé un peu cette semaine mais pas beaucoup, ils sont proches de leur record de hausse. Alors c'est arrivé évidemment, on le sait tous à quel reprise, quand il y avait une surchauffe de la croissance, qui était évidemment positif pour les taux et positif pour les résultats des entreprises, donc ça c'était pas trop grave, et puis les veilles de crack. Léa, est-ce qu'on est à la veille d'un crack? Qui se trompe en fait, c'est les taux ou les actions?
Ouais, mais ça c'est une très bonne question. En réalité, veille de crack, ça fait quand même un moment qu'on l'attend, et là on commence à avoir beaucoup d'ingrédients sur la table qui font penser à ça. La décorrélation là que vous évoquez, ça fait quand même aussi très longtemps qu'on l'a. Parce
pas
que...
tant que ça.
La décorrélation?
Oui, enfin, l'accélération de la hausse des taux, oui.
Oui, là, ça s'est fait en très très peu de temps. Et cette décorrélation, elle aurait dû être beaucoup plus massive. Mais en réalité, ce qui se passe sur le marché aujourd'hui dans les entreprises avec lesquelles on parle, c'est que ça va encore bien. Donc, c'est pour ça que personne ne s'inquiète. Et on l'a dit, ça fait des mois qu'on explique que les résultats des entreprises seront très importants pour pouvoir orienter les investissements. Et pour l'instant, on n'a pas de signaux négatifs.
C'est ça la clé, en fait.
Mais oui. Ouais. Mais quand même, quand on est un investisseur un peu averti, quand on entend ce qui se passe en termes de géopolitique, la persistance, effectivement, de ces problèmes, on parlait du CAC 40 qui est à zéro, c'est quand même à l'image de ce qui est en train de se passer sur le territoire français. Quels investisseurs?
Pas que, après, c'est à l'image de la répartition de notre indice. On a un indice qui est absolument pas techno, oui. Il n'y a pas d'IA, on n'a que du luxe, et quand LVMH est plombé, malheureusement.
Oui, et n'oublions pas que dans cet indice, c'est des entreprises internationales, donc en général, elles ne sont pas que liées à l'économie française.
On est lié à un ou deux secteurs qui sont pas les secteurs
qui ont la cote. Et au momentum négatif sur la France. Donc quand on
vous pensez que c'est lié à ça quand même?
C'est évident, on voit bien.
C'est évident. C'est évident pour vous, Sébastien, parce que moi, je me suis dit, en fait, le CAC 40, si on est plombé, c'est parce qu'on est surreprésenté dans des secteurs qui n'ont pas la cote, comme le luxe.
Principalement, mais au niveau des...
Par exemple, LVMH perd 50%.
Non, mais je sais, mais c'est parce qu'effectivement, la répartition sectorielle de la France n'a rien à voir avec l'Eurostox, parce que la première pondération de l'Eurostox, c'est ASML, qui est à peu près 9% de l'indice, et ASML, donc qui fait des machines pour les machines, pour les semi-conducteurs, et ils ont une roadmap à 2038. D'accord. C'est-à-dire que si vous posez des questions sur le prochain trimestre d'ASML, ben vous avez d'autres sujets plus importants que ça.
D'accord.
Alors qu'en France, effectivement, nos principaux fleurons, LVMH, c'est un peu compliqué. Donc par contre, sur les plus petites valeurs, moi je pense, et c'est ma peur aujourd'hui, c'est que sur la France, on n'a rien vu. C'est-à-dire que le risque politique qu'on a vraiment vu le jour de l'idée géniale de la dissolution, dans les semaines qui ont suivi, il y a une décote française qui a été massive, qui me rappelait la décote liée aux bêtises de François Hollande.
Comme Léa, vous dites, il y a une décote française.
Mais elle n'est pas arrivée encore.
Oui.
Elle n'est pas arrivée.
Elle a commencé, mais factuellement,
quand vous parlez aux
intervenants, notamment les hedge, enfin les gens qui ont beaucoup d'argent actif et mobile, on est encore un peu loin de la date de l'élection. Le sujet français n'est pas encore là.
Donc décorrélation aujourd'hui un peu macro entre les taux et les indices, ça vous frappe ou pas? Quand on a vu la journée de jeudi, par exemple, avec une accélération de la hausse des taux qui était spectaculaire,
et
on a vu les indices américains perdre un petit pourcent.
Marc, je vais reprendre la même chose, c'est qu'on est toujours dans des marchés aujourd'hui dont les drivers et dont les flux sont essentiellement algo passifs, c'est-à-dire les mêmes causes ont des effets 10 fois plus puissants qu'avant.
Oui,
donc si on regarde les taux et le pétrole, l'accélération qu'on a eue en quelques jours, avant on n'avait jamais ça, ça mettait beaucoup de temps à se passer. Donc aujourd'hui on se dit, catastrophe, 5% c'est une horreur, il n'y a rien, si ça se calme à Hormuz, après c'est de la géopolitique, on est peut-être à 4,5 dans 10 jours.
Ouais.
Donc en fait la vérité d'aujourd'hui, c'est pour ça que tout est extrêmement rapide. Mais là,
accélérer.
Ça 10 fois plus vite.
D'un point de vue macro, cette dichotomie entre, enfin, cette divergence entre les taux, c'est-à-dire des taux qui montent et des indices boursiers qui restent relativement stables et assez élevés, c'est choquant d'un point de vue macro ou pas ?
Bah, ça montre les déséquilibres aujourd'hui, puisqu'en fait, effectivement, la plupart de la croissance des indices boursiers, ça vient par l'IA. Et effectivement, aujourd'hui, l'IA prend de plus en plus de place dans le financement. Il y a même des effets un petit peu crowding out. Ça veut dire que si tu es une entreprise un peu dans un secteur traditionnel, même si tu as une trajectoire de croissance intéressante, même si tu es investment grade, tu n'attires pas le même taux de financement qu'une entreprise dans l'IA. Tu n'attires pas les mêmes capitaux. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure sur le justement cette différence entre les taux et à quel point les États arrivent à attirer le capital. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de déséquilibres qui continuent à croître, puisque je voyais justement aussi la bourse en Chine. Il ne faut pas oublier quand même que la Chine prend de plus en plus de poids dans l'IA aussi, oui, puisqu'elle représente presque 20% des biens exportés liés à l'IA. Et son surplus commercial, il est de 1% du PIB. Donc en fait, ils vont continuer à challenger, si vous voulez, le modèle américain, le prix, la compétitivité du modèle américain. La question va se poser vraiment sur quoi choisir entre un modèle américain et un modèle chinois.
Sébastien, votre perception sur l'évolution de la bourse dans les mois qui viennent, on parle de la bourse française, donc si je vous entends bien, vous nous dites aux abris.
Non, ce que je dis, c'est qu'en tant que gérant d'actifs et en tant que client de produits de gestionnaire d'actifs, il est important aujourd'hui d'avoir une vision géographique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de fonds qui étaient pure France, par exemple. Aujourd'hui, je pense que c'est une erreur fondamentale d'acheter un produit purement français.
Il y en a encore ?
Il y en a de moins en moins, et il faut raisonner au niveau européen en tant que...
Vos produits, par exemple, sont tous...
Aujourd'hui, ils sont tous même les produits small, qui sont entre guillemets les produits les plus locaux, sont aujourd'hui foncièrement européens.
D'accord.
Et si vous regardez le poids de la France dans les indices... En réalité, dans les indices small cap, c'est moins de 20%.
Léa, c'est pareil chez vous ?
Oui, absolument. J'aime beaucoup cette idée d'absence de régionalisation, parce que les portefeuilles aujourd'hui, c'est la diversification qui fait la différence, on le voit bien. Et malheureusement, c'est sûr que les valeurs françaises, bien qu'elles ne soient pas liées qu'à l'économie française, ça va être très compliqué pour ces marchés de momentum.
Y compris les grandes valeurs.
Oui. Y compris, bien sûr, bien sûr. Surtout Emmanuel, les grandes valeurs.
Emmanuel, ça vous inspire quoi un peu ce qui se passe sur les bourses par rapport au taux d'intérêt, par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'on vient d'entendre quand même, sur lequel j'étais pas totalement persuadé qu'il y avait un risque déjà politique dans le pricing des actions françaises.
Le risque politique, vous le retrouvez dans ce qu'on pourrait appeler finalement un risque de plus macro, de compétitivité globale. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ce risque politique, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le plan réglementaire. Or, on sait que tout ce qui est réglementation, etc., c'est un des aspects de la compétitivité des entreprises. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan fiscal dans un pays où on vous agite en permanence la taxation des grandes entreprises, des grandes fortunes, voilà. Je pense que c'est pas neutre si cette semaine, par exemple, est à contre-temps par rapport à l'agenda politique, alors que l'urgence réclamerait, par exemple, un petit soutien à la consommation, c'est pas neutre si, au contraire, la seule mesure qu'annonce le Premier ministre, c'est d'envoyer une lettre au chef d'entreprise pour dire on va baisser la surtaxe sur l'IS, etc. C'est-à-dire que là, il y a un vrai danger sur la compétitivité de l'entreprise France au sens large, avec le risque de voir effectivement des entreprises ne pas venir. Et c'est ça qui est le plus terrible, en fait. C'est qu'en fait, une entreprise, une usine qui ne se crée pas, ça se voit pas. Un emploi qui n'est pas créé, personne n'ira défiler quelque part pour le défendre. Vous voyez, et c'est ça qui est compliqué. Et même dans le discours aujourd'hui sur la fiscalité des plus riches, on voit bien qu'il va y avoir il y a une grande offensive Zucman qui se prépare à nouveau pour etc. Le danger, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les riches d'aujourd'hui, c'est plutôt les
ceux qui sont capables de créer de la richesse
et qui vont aller la créer ailleurs.
Qui vont la créer ailleurs ou qui vont pas la créer en se disant c'est même pas la peine.
Ce risque macro global, il existe aujourd'hui.